Bonsoir et bienvenue à cette deuxième rencontre que vous propose la Bibliothèque publique d'information en collaboration avec l'Observatoire de l'espace. Donc, je vais céder la parole à Jean-Marc Adolphe, que je remercie et qu'il va animer cette rencontre. Et je remercie également Gérard Azoulay de l'Observatoire de l'espace et puis nos deux intervenants, Kitsou Dubois et Vincent Ravalec.
Bonjour, ou presque déjà bonsoir. Donc le 22 avril dernier, dans cette première rencontre, on avait abordé la question de l'espace pris comme une matière pour la création, une matière contemporaine pour la création, une matière pour la création contemporaine. Aujourd'hui, on va d'une certaine manière, non pas que la rencontre de la dernière fois ait manqué d'intérêt, mais cette fois-ci, on va d'une certaine manière s'élever un petit peu. L'espace, un milieu à expérimenter très concrètement à travers des, on peut utiliser le mot d'expérience en apesanteur, vécu à la fois par Gérard Azoulay, qui a été l'un des pionniers en la matière, dans les années 90, disait-il. Gérard Azoulay, qui est donc directeur de l'Observatoire de l'espace au CNES, par Vincent Ravalec, écrivain et cinéaste, et par Kitsou Dubois, chorégraphe. Voilà, vous avez tous les trois participé à vécu cette expérience d'un vol en apesanteur à des périodes différentes. Peut-être on va commencer cette rencontre par et avec Kitsou Dubois. Gérard nous disait tout à l'heure que il avait participé à l'un des premier vol parabolique à l'époque à bord d'une caravelle spécialement équipée. Je crois que ça a été également le cas de Kitsou Dubois. Avant même de démarrer ces vols, de pouvoir suivre ces vols en apesanteur, tu as obtenu une bourse de la Villa Médicis hors les murs en 89, je crois, pour un séjour à la NASA. Alors, il m'est arrivé de participer une année au jury de ces bourses Villa Médicis sur les murs. La plupart des projets qui sont examinés sont des projets vraiment très strictement, j'allais dire, artistico-artistiques. Je me souviens quand même que l'année où j'y étais, une autre chorégraphe, Emmanuelle Vaudine, avait demandé, elle, à séjourner dans le service du professeur Damasio, aussi oui, aux États-Unis, pour travailler sur les pathologies liées aux absences d'émotions. Mais j'imagine qu'un projet débarquant en 1989 sur le bureau des bourses Villa Médicis sur les murs pour aller à la NASA, ça a dû peut-être surprendre.
Bah oui, ça a surpris, mais ça a intéressé, interrogé, et puis du coup, j'ai pu l'avoir. Je pense que ça a surpris parce qu'à l'époque, effectivement, même à l'époque, le mot « gravité zéro » était pas très usuel. On ne savait pas trop, il fallait toujours expliquer ce que c'est que la gravité zéro, alors que maintenant, c'est quand même un terme qu'on voit partout. Donc voilà, je dirais qu'une histoire comme ça, c'est une histoire où il y a tout un réseau de connexions qui se font et qui font qu'à un moment, je me suis mis à pouvoir proposer un projet de ce genre. Donc le réseau de connexions, c'est la question de en tant que chorégraphe, je me demandais un peu quel était le plateau pour la danse. C'était pas obligé que ce soit le plateau du théâtre, donc je fais partie de cette génération de chorégraphes qui faisaient des spectacles sur les façades d'immeubles, sur l'eau, dans des usines. Donc déjà une envie d'ouverture, une tendance à l'ouverture, à des rencontres différentes. Et puis j'étais pas quelqu'un qui rêvait de l'espace depuis toute petite. Je l'ai rencontré à ce moment-là parce que je travaillais avec un groupe d'architectes qui s'appelait le groupe Spiral à l'époque, qui était sur un projet d'habitabilité de la station Columbus. Et en fait, ils avaient des problèmes d'ergonomie, ils m'ont raconté un peu tout ça et je me suis dit, mais au fond, nous, danseurs, on peut peut-être apporter quelque chose à l'entraînement des astronautes, parce qu'à l'époque, il n'était pas question d'une approche artistique, il était question de l'entraînement des astronautes, donc ça veut dire d'une recherche appliquée, parce que c'était quand même pas du tout évident. Et je pense que c'est à cette époque déjà que le CNES m'a ouvert les portes quand même. Je sais plus très bien d'ailleurs maintenant si c'est avant ma demande de bourse que j'ai fait mon premier vol ou après, mais je crois que le CNES a été le CNES a toujours été super soutenant et ils m'ont fait faire ce premier vol qui m'a complètement bouleversée. Et après il y a eu cette opportunité de la bourse Villa Médicis où j'ai pu aller à la NASA, où j'ai pas été reçue avec le tapis rouge, hein. C'était pas très simple à cette époque, femme, danseuse.
Mais tu avais demandé, tu avais française. L'accord déjà de la NASA pour pouvoir faire cette demande de bourse.
J'avais un vrai soutien du CNES et j'ai eu l'accord de la NASA, oui, grâce au CNES, hein, grâce au CNES en fait. Mais l'accord de la NASA qui s'est finalement, dans la réalité, s'est arrêté un peu aux portes de la NASA, je dirais. C'est quand je suis arrivée là-bas, c'est plutôt...
Tu n'avais pas le bon badge.
Non, c'était pas évident. Après, tout était sécurité militaire, donc je me suis trouvée avec beaucoup de difficultés. Mais par contre, c'est tous les scientifiques qui m'ont ouvert les portes. Tous les scientifiques américains qui travaillaient, et notamment les neurophysiologues, qui travaillaient sur ces questions du corps en apesanteur, qui m'ont vraiment ouvert les portes. Et en fait, j'ai très bien compris comment fonctionnait le système spatial, parce qu'il y a Gérard en parlera mieux que moi, mais et du coup, ça a été ça, l'ouverture, quoi.
Alors, avant de parler des vols eux-mêmes, vous avez Vincent Ravalek et Kitsou Dubois, pas du tout la même expérience. En tout cas, vous avez eu la même expérience, mais on le disait avant de commencer cette rencontre, Kitsou a participé à une vingtaine de vols. Vous, Vincent Ravalek, un seul, c'est déjà pas mal. On aimerait peut-être beaucoup dans cette salle avoir eu l'opportunité de cette expérience. Vous, qu'est-ce qui vous a amené c'était pas l'idée d'initier les astronautes à l'art de l'écriture?
Pas du tout. Écoutez, pour moi, ça a été une rencontre, on peut dire, semi-hasardeuse, dans le sens où elle est arrivée après un certain nombre d'expériences diverses, en fait, qui étaient des explorations aussi bien personnel que artistique, que, entre guillemets, spirituel ou en tout cas métaphysique avec à travers mon prisme à moi. Et il se trouve que depuis quelques années, je collabore à la revue Espace de manière occasionnelle et je m'intéresse à la science et aussi à l'espace. Alors, de façon en fait relativement paradoxale, en fait, je m'étais lancé dans un tour du monde du chamanisme. Pour en fait interroger les, je trouvais ça, j'étais vraiment assez féru et assez passionné de voir. Déjà, il y avait un aspect entre guillemets magique qui me plaisait beaucoup, qui avait bercé mon adolescence, et puis aussi une démarche personnelle, voir si effectivement il y avait d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de pouvoir s'approprier le à la fois l'imaginaire, à la fois notre relation au vivant. Et à l'issue de ce tour du monde du chamanisme qui a été extrêmement intéressant, en fait, mes centres d'intérêt se sont déplacés à la fois vers la science, que j'ai découvert en fait encore beaucoup plus magique que ce que je pouvais imaginer de la magie du chamanisme. Quand on lit les revues scientifiques et quand on est un néophyte comme moi, c'est vrai que c'est ce que ça raconte est terriblement déconcertant sur là pour le coup les mystères et l'espèce d'infinie possibilité que nous offre le monde et l'univers. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a connecté en fait avec un petit peu, si vous voulez, comme ayant fait le tour de j'ai fait un peu le tour du monde, j'ai visité beaucoup de pays. L'idée de l'espace, en fait, était un peu là. Et alors là, de manière fortuite, j'étais, puisque je suis dans les mailings de l'Observatoire de l'espace, j'ai reçu un jour un appel à résidence en apesanteur. Donc là, mon sang n'a fait qu'un tour. Et dans les cinq minutes, j'ai immédiatement sollicité l'Observatoire de l'espace, que j'ai réussi à convaincre sur ma bonne mine que j'étais capable de m'approprier cette expérience pour en faire la rentabiliser entre guillemets avec une production artistique qui serait espérons-le suffisamment digne d'intérêt pour qu'il me confie cette possibilité de faire un vol. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai donc fait le vol mais contrairement à Kitsou, je pense qu'il est vraiment très éprise de cette apesanteur et pour qui ça a été un travail vraiment absolument remarquable. Quand j'ai fait un webdoc, en fait, je suis en train de le finir sur l'expérience. Et je me suis servi de ces images. C'est vrai que c'est très difficile de rendre compte de la pesanteur. Je pense qu'on va en parler après. Et les images, enfin, ce qu'a réussi à faire Kitsou avec son corps et la pesanteur, moi, je trouve ça vraiment absolument formidable. Donc, Donc voilà ce qui m'a, en gros, ce qui m'a amené à faire cette expérience.
Alors c'est vrai que le point de d'ancrage, l'intérêt n'est pas exactement le même. Vous venez de parler de ce rapport à la magie, et vous le dites d'ailleurs en exergue un petit peu du texte, avec un très beau titre, un truc en impesanteur, qui est dans le dernier numéro d'Espace. Vous dites ce qui est d'ailleurs pas tout à fait vrai, parce que vous dites le contraire trois pages plus loin.
C'est-à-dire?
Vous dites, je ne sais pas pourquoi je ne m'étais pas intéressé plus tôt à la science, alors que la magie me passionnait. Probablement, car je n'avais pas réalisé qu'elle en était qu'une des manifestations. Mais, oui. Trois pages plus loin, vous dites quand même, je ne connaissais pas de scientifiques, j'en lisais abondamment depuis plusieurs années où j'écoutais et je regardais bien leurs conférences.
Oui, mais c'est pas parce que je m'y suis intéressé que depuis quelques années. C'est vrai que j'ai arrêté mes études très tôt et donc j'ai même pas fait de cours de physique chimie. Donc, j'ai dû vraiment repartir de zéro. C'est vrai que quand je m'y suis plongé, ça a été vraiment une découverte assez étonnante. Mais je m'y étais pas du tout intéressé avant. C'est-à-dire que mon intérêt pour la science est très très récent, elle a quelques années.
Mais ce rapport que vous dites entre science et magie est intéressant et vous distingue, je crois, de Kitsudua, parce que on voit bien dès l'entame de ce rapprochement avec le CNES et la NASA, travailler sur la gestuelle, le travail même des cosmonautes, il y a quelque chose de très physique, de très en lien avec la matérialité de la danse. Au contraire, il y a plutôt ce qui pourrait unir science et magie, c'est un imaginaire lié à la science-fiction, sont des représentations de...
complètement. Moi, je veux dire, c'est vraiment Tintin sur la Lune. Moi, je suis tout à fait pétri de ces lectures-là. Et c'est ça, en fait, ce qui m'a réellement le plus fait triper dans le, si je peux me permettre cette expression, dans cette expérience. Le côté foire du trône, on décolle. Bon, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai que j'ai pas focalisé. J'ai trouvé ça très intéressant comme sensation. Maintenant, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plu, c'est ce côté, d'un seul coup, on se retrouve avec un cosmonaute qui est en train de s'entraîner. Vous êtes avec 10 personnes qui vous parlent de l'ISS comme moi, je parle d'aller faire un tournage. Enfin, et là, d'un seul coup, ce qui est de l'ordre du fantasme vient à, et on se dit, bah oui, après tout. C'est vrai qu'on n'est qu'une planète dans un espèce de truc qui est infini, c'est peut-être que c'est pas qu'un fantasme. Et ça a vraiment été le gros de l'expérience. En plus de cette sensation d'apesanteur, alors là, qui est vraiment extrêmement particulière.
Alors Gérard Azoulay, c'est peut-être le moment de faire un petit rappel historique, descriptif de ce que sont effectivement les vols spatiaux français, quand ont-ils commencé, comment se déroulent-ils, quelle est leur spécificité.
Alors, je ne sais pas si on appelle ça les vols spatiaux. D'abord, je dirais que c'est une partie des vols spatiaux, c'est justement les vols paraboliques. C'est en fait, les vols paraboliques, c'est donc un moyen technique, donc à l'aide d'un avion, qui permet de simuler en quelque sorte l'état de micro-pesanteur, donc l'état d'un pesanteur, on va dire, sans aller dans l'espace, simplement avec des moyens finalement presque usuels. Donc, c'est dans le cas de Kitsu et de Vincent, enfin les derniers vols qu'ils ont accomplis, donc ils ont volé à bord d'un Airbus, donc c'est historiquement effectivement nous avions un premier avion, enfin ça date des années, c'est quelque chose d'assez récent, c'est ce genre de moyen d'essai, c'est dans les années 90, fin des années 80, donc on utilisait un autre avion qui était une Caravelle, c'est souvent des avions recyclés, hein, mais enfin ils sont quand même un peu, ce ne sont pas des avions commandés spécialement, c'est souvent des avions qu'on réutilise en les modifiant pour que structurellement ils puissent résister en quelque sorte à ce que nous leur faisons subir. Alors qu'est-ce qu'on leur fait subir? Alors c'est-à-dire qu'en fait cet avion va aller à peu près comme un avion de ligne à 10 000 mètres d'altitude à peu près et va aller au-dessus de l'océan pour faire une trajectoire bien particulière. Donc au-dessus de l'océan il va effectuer un certain nombre de paraboles. Alors disons que donc dans ces paraboles, il va d'abord accomplir 30 paraboles et dans chaque parabole, en quelque sorte, l'avion va se cabrer, va d'abord dans ses bizarres vols, va se cabrer. Donc en se cabrant, il va donc accélérer. Donc et là, donc à ce moment-là, donc les gens dans l'avion sont soumis à une force du double de la pesanteur, hein, donc qui est deux fois la pesanteur. Donc c'est comme si on avait, comme le disait un de nos scientifiques, trois rugbymen assis sur nous. Hein, donc c'est à peu près. Donc et c'est quand même quelque chose de conséquent. Et donc le long de cette parabole. Et puis à un moment dans la suite dans cette partie haute de la parabole, donc on est comme si on était en orbite autour de la Terre, et à ce moment-là l'avion, le pilote coupe les gaz, et donc l'avion est en chute libre, et donc il a cette période de chute libre dure à peu près dure 22 secondes dans le cadre de avec un Airbus. Ensuite, donc au bout, c'est pendant cette période que on tutoie un peu l'espace. Après l'avion, donc est dans la chute, dans la redescente de cette courbe, il est toujours en chute libre, et donc il remet les gaz, il réaccélère deux fois. Là aussi, le double de la gravité, deux fois. Les rugbyman à nouveau, donc, et ainsi de suite. Et donc il fait cela 30 fois durant un vol. Alors une campagne finalement à bord d'un Airbus 0G, pour être complet, c'est une quinzaine de jours qu'on passe à Bordeaux. Pour ceux qui ont les expériences les plus, puisque l'avion est parqué à Bordeaux. Donc là, ça dure deux semaines. La première semaine, donc les candidats impétrants vont installer leurs expériences dans l'avion, vont boulonner leurs outils, leurs instruments, vont vérifier, vont les étalonner. Alors ça c'est pour les instruments scientifiques, donc ça dure une semaine, et la deuxième semaine est la campagne de vol proprement dite. Donc le lundi, première semaine, on commence ça par un briefing de sécurité où chacun présente ses expériences, et ensuite la visite de l'avion pour que tout un chacun prenne connaissance de ce qui va se passer à bord de l'avion. Et après, naturellement, les trois autres jours, c'est les trois jours de vol. Donc, on a à chaque fois le matin. Je laisse nos résidents en parler. Il y a une petite piqûre qui permet d'être en bonne condition pour supporter le vol. Et donc, pendant les trois jours, l'avion va accomplir une trentaine de paraboles pour réaliser les expériences au sens large. Alors à bord de l'avion, on trouve, dans les campagnes que nous qui sont commandées, hein, donc il y a deux campagnes par an, une en mars et en octobre. Donc c'est majoritairement, ce sont des expériences scientifiques, donc qui sont sélectionnées par le CNES pour leur pertinence. Donc pour des scientifiques qui finalement soit ont besoin de temps de micro pesanteur assez faible pour traiter dans l'étude des fluides ou dans l'étude de la combustion par exemple, ou en physiologie. Donc ça leur permet de faire des expériences, soit d'étalonner d'autres expériences scientifiques avant de se rendre dans l'espace, ou des fois pour des spationautes qui vont s'entraîner à faire quelques manipulations difficiles. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Donc c'est à peu près une quarantaine de personnes sont à bord de l'avion de manière opérationnelle. Donc à côté de ces expériences scientifiques, donc depuis quelques années, on a mis en place une résidence un peu particulière dans laquelle nous accueillons artistes et écrivains. Alors les places sont difficiles, il n'y a pas beaucoup de places, mais justement c'est un endroit assez exceptionnel pour que ça puisse féconder de manière intéressante de la création. Donc soit tous les écrivains qui ont participé à la revue Espace, comme disait Vincent, sont invités à nous proposer des projets, ou des artistes avec qui nous travaillons depuis longtemps aussi à construire des projets de création qui vont après trouver leur vie sur scène. Donc voilà un peu comment fonctionne. C'est une façon d'aller dans l'espace sans fréquenter, à tutoyer le milieu, comme je disais, même si c'est court, ça permet justement de se familiariser, de se rendre compte alors je ne sais pas si on verra après s'il y a des mots ou des images pour le dire, ou pour en parler, mais je crois que c'est notre projet dans la multiplicité des résidences que nous organisons de rendre quelque chose de ce que peut faire l'espace à l'homme quand il s'exerce sur lui. Donc je vous rassure aussi, tout, de toute façon après, tous les résidents signent une décharge en disant que s'il arrive quelque chose dans l'avion, nous ne sommes pas responsables.
Alors Kitsu, tu nous disais tout à l'heure, cette demande de bourse de Yann Messi sur les murs, il s'agissait au fond plutôt de mettre au service ton savoir de danseuse chorégraphe pour le travail des cosmonautes, et puis finalement ça s'est un peu inversé, enfin tu es devenu addict en quelque sorte de ces vols en apesanteur, et tu en as fait la base même de ton travail de chorégraphe.
C'est-à-dire qu'il y a eu une période où, en fait, ça m'a complètement, comme je le disais tout à l'heure, complètement bouleversée. Et pour revenir un peu à ce que disait Vincent, cette question de la globalité du monde vu d'en haut et tout, moi, je l'ai vécu dans mon corps. Enfin, c'était très fort, cette impression. Moi, je suis chorégraphe, donc effectivement, mon unité de mesure, c'est le corps. Et j'ai eu le sentiment avec mon corps d'avoir de vivre une sorte de globalité. Et du coup, c'est sûr que toute l'histoire sur Terre me paraissait très, très petite par rapport à cette expérience en apesanteur. Et donc, j'ai pensé devenir astronaute. Enfin, j'ai cherché comment faire pour rester là-haut, en tout cas. Et puis, bon, après, la réalité est autre. Mais voilà, donc après, il y a eu effectivement ce basculement où d'un seul coup, cette ouverture vers quelque chose qui me donnait un autre point de vue et qui me permettait d'un seul coup de pouvoir voir ce que je faisais sur Terre vraiment d'une autre façon. Et ça a pris du temps, en fait, pour faire le lien entre l'expérience sur Terre et l'expérience en microgravité, pour comprendre que ça marchait ensemble. J'ai mis
alors,
du temps.
Attends, est-ce que tu peux préciser, parce que Gérard Zoulet utilisait le terme de micro-pesanteur, hein, pour définir ces états qui sont pas vraiment...
Je te laisse le dire, ça.
Comment?
Oui, parce qu'en fait...
Tu parles de micro-gravité, voilà. Qui est un terme qui est...
Oui, parce qu'en fait, la pesanteur, c'est gravité zéro. Et c'est ça, tu me reprends si je me trompe?
Oui, en fait, c'est l'impesanteur, c'est ça, c'est gravité. En fait, on atteint, vu qu'il y a toujours c'est un problème de qualité de micro-pesanteur, si on veut aller dans ce détail-là. C'est qu'en fait, dans un avion, dans ce type d'avion, avec les vols paraboliques, on n'atteint pas le même niveau de micro-pesanteur que dans la station spatiale. Il y a beaucoup de, disons que la Terre exerce largement encore son attraction, et donc, même si on la compense c'est compensé par un réseau de forces, en fait, dans l'avion, équilibre des forces entre la traînée, l'accélération, néanmoins, voilà, on n'atteint pas des grandes. Pour certaines expériences scientifiques, c'est problématique. C'est pas un niveau, c'est surtout dans cet esprit-là, c'est avec le niveau de micro-pesanteur n'est pas suffisant selon ce que souhaite l'expérience, le résultat que souhaite atteindre l'expérience scientifique, notamment des fois dans tout ce qui peut être autour de sur des horloges, par exemple des horloges atomiques à atomes ultra stables, donc on n'a pas un assez bon niveau de micro-pesanteur. Voilà, mais je pense que dans le sujet que nous abordons ce soir, le niveau de micro-pesanteur me semble satisfaisant.
D'accord. Donc, pardon, je t'ai coupé, mais parce que ce terme de gravité ou de microgravité, il est aussi utilisé dans le vocabulaire de la danse, enfin dans le travail même de la danse. Donc, il y a des passerelles que tu as cherché à explorer d'ailleurs.
Bah, absolument. C'est-à-dire qu'en danse, en tout cas en danse contemporaine, on va puiser dans la gravité pour trouver la légèreté. Et en fait, c'est très très fort de vivre d'un seul coup la légèreté, qui n'est pas d'ailleurs obligatoirement une libération. C'est quelque chose de très paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a un premier état, alors après ça dépend des gens, hein, mais il y a un premier état complètement euphorique. De se trouver libéré, mais au bout d'un moment, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc en fait, c'est paradoxal parce que c'est une perte de repères, c'est-à-dire qu'en fait, il faut tout réapprendre. Alors bon, pour moi, c'était vraiment assez jouissif d'une certaine manière, c'est-à-dire cette expérience d'une perte comme une possibilité de tout reconstruire et de tout réinventer. Et je pense que c'est ça la force que j'ai ressentie et l'envie que j'ai ressentie de creuser cette expérience, d'aller beaucoup plus loin, parce qu'elle me permettait d'aborder, et d'ailleurs elle me permet toujours, d'aborder une multitude de sujets à partir de ce point de vue-là, qui est vraiment de la perte de repères et du coup d'abord de repositionner le corps comme une unité de mesure, et puis de se poser toutes les questions, de toucher quelqu'un, de toucher de toucher une matière et d'être poussé. Qu'est-ce que ça veut dire dans la relation à l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'imaginaire? Tu parlais tout à l'heure de matérialité de la danse, mais je dirais que d'un seul coup on touche l'immatérialité de la danse. C'est-à-dire qu'un danseur, il est organiquement présent sur le plateau, mais qu'est-ce qu'il va essayer de faire passer au spectateur, c'est un peu de son abstraction, de son intérieur, de son imaginaire qui en fait a pas de poids, qui est quelque chose d'impalpable, d'invisible. Ben en apesanteur, on a l'impression de toucher ça, d'y être. Donc c'est très troublant et à la fois on n'y est pas. Enfin, ça se touche pas, mais du coup c'est très très fort. Bon pour un danseur, mais pour n'importe qui en fait, parce que le corps, c'est tout. On a tous un corps et on a tous des possibles incroyables. Et c'est vrai que tout à l'heure je disais que j'ai pu commencer à construire quand j'ai compris que ça avait à voir avec notre expérience sur Terre, c'est de se dire que sur Terre on a tous ces possibles là, mais que la gravité, elle est une force tellement puissante qu'elle camoufle toutes ces forces, que d'un seul coup on découvre, on le prend comme une poussée d'informations, d'une richesse d'informations en apesanteur, mais au fond on l'a sur Terre.
Peut-être on peut voir, non, qu'on se figure un petit peu le...
Oui, c'est
le...
ça, oui. Pas vu. Donc, on y va. Et là, plein écran. Donc ça, c'est le dernier vol qu'on a fait en 2009 à bord de l'Airbus A300 en tant que résident de l'Observatoire de l'espace du CNES.
Donc, qui est le monsieur avec la combinaison orange?
Alors, c'est ce qu'on appelle un personnel de sécurité, c'est-à-dire c'est lui qui va nous rattraper si jamais il y avait un problème de perte de contrôle, parce que là on est à l'arrière de l'avion et en fait il y a une sorte de tissu qui est là, et en fait derrière ce tissu il y a plein de chercheurs qui font des expériences. L'avant est derrière, enfin. Donc vous avez l'impression qu'on est tout seul, mais on n'est pas du tout tout seul. Derrière il y a plein de monde, mais bon, pour essayer d'arriver à faire des images à peu près correctes. Donc là, c'est des images en fisheye. Donc, c'est-à-dire grand angle.
Et donc, à chaque fois, ce sont forcément des séquences de 22
voilà,
secondes.
C'est ça, qu'on a mis bout à bout là. Vous n'avez pas la chute en gravité 2. Alors, il y a un petit montage sonore avec l'impression de battement de cœur. Mais ça me permet de raconter cette histoire. En fait, on est à bord d'un avion, donc c'est de la grande technologie. Enfin, quand même, quoi. Et en fait, on est ramené à des choses assez archaïques. Ça va très loin dans le corps et très profondément dans le corps, et ça renvoie à des choses assez archaïques. Donc, on est encore dans un paradoxe entre pouvoir avoir accès avec le corps à pouvoir faire ce genre de choses, et à la fois, du coup, retourner très profondément en nous-mêmes sur la question de qui on est et où on va.
Très archaïque, est-ce que ça me fait penser le côté fisheye aussi, qui fait un peu boc à la poisson.
Oui,
est-ce que de cette expérience, on ressort avec l'idée
sujets,
les orientaux, non, que puisque tu parles de mémoire archaïque, que nous ayons pu être il y a très très longtemps poissons plutôt que primates.
À chacun son imaginaire là-dessus, mais c'est vrai que ça renvoie à des choses très très profondes, quoi. Alors je sais pas par rapport au chamanisme, mais à mon avis, c'est pas inintéressant.
Là, on rentre dans un sujet qui serait délicat et vraiment trop, trop, trop subjectif, oui, et trop, trop compliqué, je pense, à évoquer en peu de temps.
Mais sur cette notion de mémoire archaïque dont parle Kissou Dubois, c'est
non,
quelque chose
alors,
que
moi,
vous avez senti, non?
C'est absolument pas quelque chose que j'ai ressenti, je pense, pour une raison simple, c'est que l'expérience a été trop, trop, trop courte. En plus, j'avais des choses à gérer, il y avait le film et tout ça. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment formidable, en fait, c'est les trois premières paraboles. J'étais attaché parce que le personnel de sécurité, enfin, vous fait faire ça progressivement. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé les plus intéressants parce que j'étais concentré justement sur mes sensations, ce que doit ressentir Kitsu à chaque fois. Après, quand on n'est pas malade, le corps s'habitue assez vite et il y a un côté un peu foire du trône. Oup, l'avion décolle, tout le monde fait ouh, comme ça. Bon. Du coup, on est moins dans quelque chose d'introspectif, et j'ai trouvé ça moins intéressant. Par contre, ce que j'ai ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'aime bien, en fait, quand je fais une expérience, voir de quelle manière je peux la recycler dans mon rapport au monde. Et je me suis retrouvé, en fait, je me retrouve maintenant très souvent en 0G dans la vie et en 2G. Donc, c'est ce que je raconte dans le webdoc. Et j'essaye de voir comment on vit tout de même, surtout à Paris, dans un contexte assez stressant. Et moi, je suis de nature assez... je peux vite partir au quart de tour. Donc, j'essaie de voir quand quelque chose me stresse, est-ce que je ne peux pas passer en 0G, par exemple ? Ou au contraire, quand j'ai un moment d'absence, est-ce que je ne peux pas passer un peu en 2G ? C'est, donc, j'ai essayé de m'approprier le ressenti que j'ai eu de l'expérience pour essayer de le voir de quelle manière, en fait, je pouvais le recycler dans la vie quotidienne bassement terrestre.
Donc c'est quand même gardé, même si l'expérience a été brève, en tout cas plus courte en durée cumulée que ce qu'a vécu Kitsu, il reste quand même une mémoire. Quand vous dites voilà passer en 2G, c'est une mémoire corporelle quand même.
C'est une mémoire corporelle dans le sens où moi je pense que tous les gens qui font l'expérience le ressentent. On vit quelque chose qui est absolument inédit. C'est-à-dire que c'est même difficilement discible.
C'est
tous les gens, parce que j'ai interviewé tous les scientifiques qui avaient déjà fait l'expérience. Je leur ai posé des questions après. Et c'est vrai que c'est pas comme flotter dans une piscine. C'est pas comme si on avait un poids qui s'enlevait de vos épaules. C'est vraiment votre substance. Enfin, ce que vous considérez comme vous, d'un seul coup, qui ne pèse plus rien, mais de l'intérieur. Enfin, c'est vraiment très, 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 très bizarre à rendre. Et idem, quand on est en 2G, c'est pas comme si vous aviez un poids sur vous. Non, pas du tout. C'est vous-même. Vous êtes d'un seul coup plus dense. Et c'est une expérience vraiment très, très, très curieuse. Donc, qui dit expérience curieuse, effectivement, on a la possibilité, je pense, de la mémoriser. Et après, je pense que moi, en tout cas, mon expérience ne cesse de me le dire. Les mémoires qu'on a en nous sont des choses qu'on peut utiliser et dont il faut apprendre à se servir. Et une expérience aussi intéressante comme ça, ce serait idiot de ne pas essayer de la mettre à profit pour mieux réagir au monde qui est le nôtre.
Dans le votre texte là, dans le dernier numéro de la revue Espace, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment très beau dans avec beaucoup d'humour en même
Bien
temps
sûr.
Dans la façon dont vous dites bon avant même d'imaginer ce vol, vous dites tiens peut-être je vais rejoindre au fond une zone qui est celle de l'écrivain, qui serait celle de l'inspiration, l'inspiration qui serait elle-même une sorte de nappe en apesanteur à l'intérieur du corps, une cachette intacte apesantée, vous dites, où les idées flottantes et tranquilles germeraient avant de s'incarner, subissant alors brutalement l'inévitable déformation de la gravité. Et puis en fait, très vite, dans
c'était vraiment une pure chimère, oui. Non,
voilà,
c'est pas du tout. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout ressenti la moindre zone d'inspiration en apesanteur. Je pense que c'est différent. On arrive vraiment dans un autre espace-temps avec. Et je pense qu'il faut inventer un autre langage, une autre manière de penser, une autre manière d'être. Et où là, l'inspiration littéraire, enfin, je veux dire, n'est pas du tout, tel que je l'ai ressenti, en tout cas, pas du tout d'actualité. Par contre, se pose la question d'une nouvelle forme à inventer.
Mais du coup, ça, c'est
peut-être écrire avec des nuages ou, enfin,
voilà,
c'est quelque chose.
Vous inventez
comme ça,
même des mots. Vous dites, je sais plus, j'ai souligné quelque part. Voilà, c'est très beau. Nuagé ou flotouné ou najolé, rotationné. Donc là, on est encore dans la transformation des mots, mais au-delà même de ça, j'imagine que c'est finalement très troublant quand même pour un écrivain d'être amené à dire, comme vous l'écrivez là, voilà, il est au fond impossible de décrire exactement ce que l'on ressent. Il faudrait une autre langue capable de parler en phrases impondérables de nuages légers et vides, etc. C'est-à-dire que l'expérience telle que vous l'avez ressentie, l'écrivain ne trouve pas les mots pour la communiquer ou pour la transmettre.
Non, mais par contre, je pense que le corps, au bout d'un moment, là, j'ai l'impression que justement, pendant que vous me le dites, j'y arrive mieux. Je pense qu'on est dans une zone, une espèce de petit no man's land, en fait, on est encore sur Terre, et on est cette fraction de quelques secondes, on est dans un état différent. Je pense que ça permet c'est vraiment un espace-temps différent, c'est le cas de le dire, oui.
Alors, qu'est-ce que dit Vincent Ravalet avec cette tentative de, au fond, de transposer alors dans la vie quotidienne pour vous-même ou dans une expérience de création avec d'autres danseurs, une expérience qui a été vécue à titre personnel, même si certains des danseurs avec qui tu travailles ont pu participer à ces vols, il y a là tout ce travail effectivement de transmission, de transposition d'une
Oui, ben je pense que justement le mot un peu clé c'est ce nouvel espace-temps, c'est-à-dire comme c'est un autre espace-temps, Le digérer prend du temps. Il y a aussi besoin du temps pour pouvoir petit à petit en faire quelque chose. Et finalement, moi, j'ai eu besoin aussi de réactiver cette mémoire parce que elle se perd. Enfin, elle est là quelque part en nous, mais il faut la réactiver pour que elle puisse commencer à vraiment s'installer et puis devenir un moyen de création, en fait, sur Terre, en tout cas. Et ben, d'ailleurs, là-haut aussi, parce que c'est compliqué quand même quand on y retourne. Et du coup, je pense que cette réactivation est vachement importante. Et moi, j'ai cherché à pouvoir créer d'autres milieux qui me permettaient de réactiver cette mémoire-là, parce que quand même, même si j'ai beaucoup de chance d'avoir fait pas mal de vols, c'est très compliqué quand même pour faire un vol. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'eau et à essayer de trouver une manière de bouger dans l'eau qui fasse que le corps, la densité du corps soit proche de celle en apesanteur. Alors évidemment, il y aura toujours l'eau autour, mais c'est vrai que, bon, par exemple, nous, sur Terre, on a toujours des mécanismes de déplacement qui sont de pousser. On pousse pour avancer. Dans l'eau, on fait pareil. On pousse pour avancer. En apesanteur, ça sert à rien de pousser. Enfin, on pousse, mais après, il faut trouver quelque chose qui nous arrête si on a eu un support. Et si on n'a pas de support, ça se déplace pas. Donc, dans l'eau, on a travaillé avec cette même mécanique, c'est-à-dire de ne pas pousser, mais de se servir du mouvement de l'eau et d'arriver finalement à trouver des sensations très proches pour réactiver cette mémoire. Et petit à petit, ces expériences-là ont permis que ça existe. Ont permis de pouvoir transmettre aussi et de pouvoir préparer les danseurs au vol. Et donc, du coup, quand ils arrivaient au vol, d'être beaucoup plus performants parce que déjà dans une pré-situation, je dirais, de vol et de pas être juste dans... Enfin, ils sont de toute façon un peu dans l'inconnu, mais quand même, quoi. Et donc, ça a été tout un travail de mise en place comme ça, donc avec l'eau, avec aussi des capteurs sensoriels pour refaire vivre la richesse des informations, la précision, la finesse des informations, comme je disais tout à l'heure, puisque la gravité sur Terre, elle camoufle pas mal de choses. Donc, comment revivre? Ben, les capteurs qui permettent, par exemple, dans un mouvement, on crée du son et on va avoir toute une série de développements de son de cette position jusqu'à cette position-là. Moi, quand je suis même danseuse, je sens pas tellement de différence entre ça et ça. Dans mon corps, il n'y a pas tellement de différence. Il y en a une, mais je la sens pas vraiment. Alors que si le son est différent, je vais avoir une information différente qui fait que du coup l'écoute que j'aurai de mon propre mouvement va être dans un autre espace-temps, si on peut dire, c'est-à-dire pas celui de la réception sur Terre qui est très reliée à la gravité quand même. Donc voilà, je me suis mis à travailler vraiment avec différents, je dirais, milieux qui renvoyaient aussi aux danseurs c'est cette information là et puis bon, après il y a l'expérience en apesanteur, mais du coup cette expérience, il faut l'incarner, il faut que chaque danseur à sa manière puisse l'incarner et puisse après le en rendre compte sur le plateau, si je peux dire, c'est-à-dire dans son corps le vivre suffisamment concrètement pour créer une sorte d'empathie avec le corps du spectateur. Donc il y a eu toute une démarche qui s'est articulée autour de ça, de ce processus d'expérience en fait.
Et Vincent Ravel, quand vous nous disiez que de cette expérience vous gardiez des
séquelles,
des séquelles qui n'ont pas l'air si désagréables que ça d'ailleurs comme séquelles, mais
ça, vous ne savez pas.
Non.
Non, enfin, c'est par exemple, si vous êtes, je sais pas, dans le métro et que d'un seul coup vous mettez à flotter, je veux dire, c'est très déroutant. De la même manière, si
parce que j'ai pas bien compris. Alors c'est
voilà,
il m'avait semblé comprendre que c'est vous qui décidiez à un moment donné de flotter dans le métro.
C'est ce que j'essaye, si vous voulez, je tends vers ça, mais pour l'instant je suis encore un petit peu déconcerté, bouleversé par cette expérience. Donc elle arrive de manière parfois inopportune. Si je peux me sentir d'un seul coup écrasé par deux fois mon poids alors que la situation ne s'y prête pas.
Alors j'ai une question, parce que là vous parlez d'expérience quotidienne qui pourrait être le lot de tout un chacun. Poser une question en me permettant de rappeler une expérience personnelle qui a rien à voir avec l'impesanteur, mais quand même il se trouve que lorsque pour ma part j'ai découvert la danse à Montpellier, j'étais très très intrigué je comprenais pas comment faisaient les danseurs pour mémoriser une chorégraphie, parce qu'on a tous appris à l'école, voilà, des réciter et donc à apprendre par cœur des textes, mais du mouvement, ça me paraissait très compliqué. En plus, les danseurs et les chorégraphes que je voyais à ce moment-là travaillaient en silence, alors ils ont même pas le support de la musique. Et donc j'ai voulu prendre quelques cours de danse, c'était pas du tout de la danse classique, etc., simplement pour comprendre par où ça passait. Et j'ai découvert à ce moment-là un geste dont j'ignorais qu'était un geste, qui était la respiration. Je me suis aperçu qu'on pouvait effectivement moduler sa respiration et que ça déployait une plasticité voilà du corps et que ça avait une influence sur l'écriture. Ça, je voulais en venir là, c'est-à-dire qu'est-ce que en dehors de voilà de ces expériences quotidiennes, de ces micro-expériences quotidiennes dont vous parlez, est-ce que cette expérience comme ça d'un état d'apesanteur a une influence quelconque ou pas du tout sur la création littéraire? Et je dirais sur la physicalité de la création littéraire, parce qu'il y a
non, si vous voulez, parce que d'une part j'ai fait des expériences plus bouleversantes que ça, et d'autre part elle a pas été suffisamment longue et elle est pas suffisamment. Je pense que si j'avais fait peut-être comme Kitsu 48 vols de manière répétée, et que ça imprégnerait complètement, et que si j'écrivais sur la pesanteur, l'expérience a été trop fugace, hein, si vous voulez. Alors malheureusement, je pense que le CNES n'aurait pas les moyens de me sponsoriser autant, mais c'est vrai que si c'était possible, je ferais bien une œuvre vraiment spécifique dédiée à la pesanteur. Je pense qu'il y a vraiment un sujet formidable et magnifique, mais là, ça pas été suffisamment long.
Kitsu, sur les sensations même de ressenti en impesanteur ou en microgravité, comment ça se traduit dans, tu parlais tout à l'heure du travail dans l'eau, dans un travail encore plus basique d'entraînement, d'échauffement du corps du danseur, de perception, de ce qu'on appelle la kinosphère. Est-ce que il y a des applications possibles.
Je peux parler de mon expérience à moi, mais j'ai beaucoup cherché comment pouvoir traduire ça sur Terre, puisque de toute façon, on est sur Terre. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période importante d'analyse et des mots, justement, d'une compréhension mentale de l'expérience physique. Il ne suffit pas d'avoir l'expérience, surtout quand on est dans un milieu où on n'a plus la capacité de pouvoir refaire. Enfin, il y a toujours la gravité. Donc ça a été important de passer par toute une analyse, tout un travail mental qui faisait comprendre ce que c'était que ce milieu-là et ce que c'était que le corps là-dedans. Donc ça a été vraiment important. Et puis ensuite, j'ai commencé à finalement travailler sur ce que j'appelle moi le corps dilaté. C'est-à-dire faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, on le sait que quand on est danseur, notre corps est vraiment notre moyen d'expression, de compréhension du monde. Quand on est en apesanteur, d'un seul coup, comme le corps n'a plus de limites, c'est-à-dire que ce qui fait que vous sentiez que vos mains sont là ou vos pieds sont là, c'est parce qu'ils pèsent. Mais quand, par exemple, je peux avoir les mains derrière moi en apesanteur, je sais pas si mes mains, mon bras, il va jusqu'au mur ou il s'arrête à l'épaule, je me rends pas vraiment compte, si ce n'est qu'il faut que j'active des tensions à l'intérieur du corps pour créer des connexions entre le centre et les extrémités. Donc ça, c'est par exemple, ça a mis du temps, hein, ça se fait pas en 2 minutes, comme tu dis Vincent, pas en un vol. Hein. Et du coup, en fait, c'est ça que j'ai retranscrit sur Terre, c'est-à-dire de donner la principale importance à toute cette construction intérieure des connexions dans le corps. Donc du coup, faire en sorte que et le danseur et le spectateur d'ailleurs soient concentrés sur toutes ces connexions à l'intérieur plutôt que sur d'où ça part et où ça va. Donc il y a effectivement toute une autre écriture qui s'est mise en place et qui fait intervenir aussi une notion de temps, parce que du coup ça décale le temps, c'est-à-dire qu'il faut plus de temps il faut plus de temps pour développer cette circulation du mouvement à l'intérieur du corps. Donc c'est pour ça que ça développe la conscience du volume du corps, et plus de temps pour le danseur pour le faire et pour le spectateur d'accepter ce temps-là. Donc c'est quelque chose d'un petit peu particulier, et ça demande bizarrement plus de puissance aussi, ça demande énormément de puissance musculaire sur Terre pour pouvoir tenir dans des situations et développer et tenir le passage de ce mouvement dans des situations un peu extraordinaires, puisque je me suis mis à utiliser plutôt le volume du plateau plutôt que le plateau lui-même. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des circassiens, donc en suspension, où l'intérêt n'est pas de l'agrès ne m'intéresse pas, c'est juste le moyen de pouvoir être dans le volume de l'espace en même temps que dans le volume du corps. Donc c'est ça que je pourrais dire sur la question de l'écriture qui est issue de cette expérience.
J'ai une question absolument naïve et stupide, je crois, qui me vient comme ça, mais en t'écoutant, je me dis, mais tous les mots que tu utilises désignent quand même une grande matérialité du corps et de l'expérience physique. Donc, on n'est pas du tout dans le... comment dire ? On pourrait avoir l'image comme ça un petit peu facile de dire, bon, on a pesanteur, on utilisait tout à l'heure le mot flotter, il y a des sensations qui seraient un peu vaporeuses, comme, je sais pas, on pourrait imaginer que on pourrait atteindre certains états planants, avec l'usage de substances plus ou moins licites. Or, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas un état planant, celui que vous avez ressenti dans ces moments où vous étiez en impesanteur.
Une petite remarque cocasse, c'est que tous les gens que j'ai interviewés, ils sont là, oui, c'est vraiment une espèce d'euphorie incroyable et tout. Mais bon, comme les trois quarts n'ont pas du tout l'expérience des états de conscience modifiés, ils se rendent pas compte qu'ils sont shootés tout de même à la datura, quoi. Et la scopolamine a vraiment un effet, je pense que l'euphorie, je sais pas dans quelle mesure, elle vient pas aussi de la scopolamine qu'on prend avant. Il y a une euphorie du truc, mais enfin, très clairement, il y a aussi une euphorie qui, pour moi, qui vient de la scopolamine, hein.
Moi, j'ai fait un vol sans et des vols avec. Je n'ai pas vu tellement de différence.
Alors, je me trompe peut-être.
Je ne sais pas. Après, c'est très personnel.
Mais vous nous disiez avant la rencontre que...
Je vais préciser quand même à quoi ça sert.
Voilà, à quoi sert la scopolamine. Parce que tout le monde ne prend pas forcément de la scopolamine
voilà,
jour et matin.
Voilà, tout le monde ne prend pas ça tous les matins au petit déjeuner quand même. Et donc, en fait, on s'est quand même aperçu que, enfin, au début, dans les premiers vols, comme beaucoup de gens sont malades en bateau ou dans le car, ils sont encore beaucoup plus malades dans les vols en 0G, dans les avions, dans les vols paraboliques. Et donc, un scientifique malade ne travaille plus. Donc c'est très mauvais.
C'est pas un
bon scientifique. Donc il a fallu trouver un équilibre pour les en quelque sorte pour les prémunir contre ces effets du vol dans l'espace, au moins le temps de la campagne et qu'ils puissent réellement faire ce pourquoi ils étaient montés. Donc c'est pour ça que maintenant il y a des dosages subtils qui en fait c'est un mélange en fait enfin il s'est vu le deux phases. Mais ce dosage évolue constamment entre un côté amphétamine et en même temps excitant pour arriver à ce que les gens puissent travailler tout en étant insensibles, disons, au changement aux problèmes de l'oreille interne, puisqu'en fait, on revient à cette question d'oreille interne dans l'avion, comme dans les bateaux quand vous êtes malade. En fait, en gros, quand votre œil et votre oreille vous donnent des informations très différentes sur ce qui se passe devant vous. Donc, à ce moment-là, pour une raison complètement inconnue, à un moment, votre estomac décide qu'il faut agir. Donc voilà. Donc là, c'est là vraiment votre vol est gâché.
Mais vous nous disiez, Vincent, avant de commencer cette rencontre, que vous aviez à moitié refusé cette, pas pris la dose prescrite.
Non, j'ai pas pris la dose. Oui, non, j'ai
pas. Vous vouliez vivre pleinement le.
Non, c'est pas ça. C'est que j'ai toujours peur de ces trucs-là, donc je tiens pas. J'ai demandé une dose un petit peu moins forte que la dose qui était proposée, mais là, il y a un effet psychotrope indéniable. Peu importe d'ailleurs. C'est pas
oui, mais pour revenir à la question que je posais avant, pour reprendre ce que Kitsu disait de cette sensation de physicalité, parce que tu parlais même du cirque, enfin ça n'est pas, enfin voilà, on pourrait imaginer comme ça, non, c'est pas un état planant.
Écoutez, moi je l'ai pas vécu suffisamment, j'ai trouvé ça c'est extrêmement déconcertant, c'est inédit. Je pense qu'effectivement, quand on arrive à se l'approprier avec le biais de la danse, ou ça peut. J'étais plus, si vous voulez, dans la surprise et dans une espèce de tentative d'analyse que vraiment dans. J'étais pas dans une euphorie, si vous voulez. J'étais plus dans la découverte de l'expérience, de la sensation, et je vous dis cette espèce de vide et de légèreté très bizarre qui est à l'intérieur de vous. C'est surtout ça, moi, que je retiens de ce que j'ai vécu.
Et je pense que, après, effectivement, moi, c'est un peu particulier dans le sens où il y a ce sentiment de perte. Alors après, de perte de repères, de tout ça. Donc après avoir vécu ce sentiment de perte, qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment de perte? Donc du coup, on essaye de construire quelque chose. Et donc c'est toute la relation au milieu, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu qui est plus le même, avec un corps d'un seul coup qui est complètement dilaté, qui pourrait être le milieu, on pourrait être complètement ouvert. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus de dedans et de dehors. Donc il n'y a plus d'échange. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Enfin moi c'est un peu tout ça qui s'est passé. Du coup après il faut recréer un échange. Donc il faut recréer des limites du corps pour pouvoir échanger avec ce milieu d'une manière différente, avec une gestuelle différente, avec des repères différents. Mais enfin ça a été vraiment c'est vraiment mon propos en apesanteur. C'est-à-dire comment on organise petit à petit toute une autre manière d'être dans ce milieu-là. Mais il faut donc se confronter au milieu. Mm-hmm. Si on est juste exposé comme ça, il ne se passe pas grand-chose au bout d'un moment. Enfin, c'est mon impression.
Est-ce qu'il y a peut-être des dans la salle des questions, ou des remarques?
Oups, pardon. Je veux bien faire une remarque parce que moi, en tant que danseuse, je considère la danse, enfin le corps, comme un moyen de lutter contre la gravitation. Quoi, c'est une méthode de gravité. C'est vraiment un engin de. C'est un engin. Oui, aujourd'hui, je crois que je peux vraiment utiliser ce mot. Un engin de anti-gravitationnel. Alors, quid de enfin bon, vous l'avez très bien exprimé, mais je crois que vraiment, ce qui est vraiment intéressant dans la danse Iketnung, c'est que notre corps nous aide à aller là-bas, quoi. Alors bon, effectivement, j'ai pas fait ce genre d'expérience, mais je les imagine beaucoup, je crois. Alors je sais pas, c'est une remarque. Hein.
Mais c'est très juste.
Parce que j'utilise beaucoup ce mot ces derniers temps.
C'est très juste, mais vous n'êtes pas la seule. On parle toujours de danseurs en apesanteur. Enfin, c'est courant d'entendre ça. C'est très juste. C'est tout à fait juste. Vous êtes quand même sur Terre. Donc, c'est tout à fait la métaphore de quand on est un danseur en apesanteur, c'est vraiment c'est la métaphore de ces sensations là qu'on peut avoir en tant que danseur. Sauf que c'est réel, quoi. D'un seul coup, c'est réel. C'est ce que disait aussi Vincent tout à l'heure en parlant de réalité. C'est-à-dire que d'un coup, on se retrouve dans une réalité qui était l'imaginaire avant. Mais cet imaginaire, il est tellement ancré en nous. Le rêve de vol, c'est quand même l'histoire de notre histoire de terrien. Et donc voilà, ça passe par les avions, ça passe par n'importe quoi, mais c'est quand même hyper présent. Donc, on est là-dedans. Et je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai eu le sentiment, au début, de découvrir mon espace intérieur de danseuse dans les toutes premières expériences en apesanteur. Et c'est toujours vrai.
Je peux juste encore rajouter quelque chose, puisque je suis toujours un peu fâchée contre le fait que, alors, si on commence un travail, qu'on le commence au sol, là où justement il y a tout qui vient. Cette pesanteur vient juste nous envahir. Et alors que si on est debout, comme en danse classique, quand on se met à la barre, c'est déjà plus facile parce qu'on est déjà debout. Alors, est-ce que là-bas, il y a aussi une limite comme ça qu'on devrait... Enfin, coucher, ça doit être assez difficile, quoi.
Coucher, debout...
Comment vous voulez.
Oui, parce qu'on nous conseille de commencer coucher pour tous les problèmes d'équilibre, mais au fond, on s'en fiche complètement. Coucher debout, de travers, on est n'importe comment là-haut. Nous, on commence au sol, mais en tant que danseur, on explore encore plus. C'est parce qu'on va aller explorer encore plus la gravité qu'on va pouvoir s'en échapper. Donc après, il y a 1000 façons de l'explorer. Après, c'est des techniques, c'est des esthétiques, mais au fond, c'est vraiment parce qu'on y va à fond qu'on s'en libère. Donc c'est juste ça.
Mais je retiens de ce que tu as dit quelque chose qui colle complètement avec l'intitulé de cette rencontre, l'espace, un milieu à expérimenter. Alors évidemment, dans le aujourd'hui, espace est écrit avec un grand E. Mais au fond, pour les danseurs ou chorégraphes, ce que tu disais très bien, l'espace quel qu'il soit est une donnée fondamentale d'ailleurs, et c'est une matière à expérimenter à chaque fois. Je ne sais pas si pour dans le travail de l'écrivain, il y a un texte fameux sur l'espace littéraire, mais est-ce qu'il y a ce même rapport à on peut plus parler aujourd'hui de l'espace de la page, d'ailleurs, parce que la page est devenue écran. Est-ce qu'il y a ce même rapport matériel à...
J'écris, j'ai l'impression d'être dans une fusée un peu, oui, non, depuis le début, c'est pas nouveau, en fait.
Ça, c'est le moteur de l'inspiration. Non, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un espace quand vous
j'écris. Écrivez. Ben heureusement, parce que sinon, je serais un peu un peu difficile. Oui, tout à fait.
Et comment vous le qualifieriez, cet espace ?
Ben écoutez, je pense que c'est, on est obligé quand on écrit d'être dans un espace qui est commun. Sinon, il y a forcément. Je pense que si vous écrivez dans un espace qui est pas commun avec l'espace qui est le nôtre. Vous n'êtes justement pas en phase. Enfin, soit ce que vous écrivez est tellement à côté que ça n'a aucun écho. Mais je pense que l'écriture est une des choses. C'est ce qui vient, concrétiser le langage, et c'est ce qui, à un moment donné, nous permet de nous unir, de nous relier, de communiquer. Donc, forcément, je pense que l'écriture émerge de ça. Après, c'est bien la difficulté quand on se retrouve en apesanteur. Je pense que là, on est dans autre chose et qu'il faudrait trouver une autre manière de communiquer qui corresponde à cet espace-là. Mais pour moi, l'écriture est vraiment une écriture d'aujourd'hui, d'ici, de nous, de cette matérialité-là et cette dimension qu'on partage tous ici.
Est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, je ne sais pas, là ça me vient comme ça, c'est une totale improvisation, mais que l'espace avec un grand E, au fond, est un espace sans espace?
Écoutez, là, on rentre dans des considérations métaphysiques qui ne m'interpellent pas plus que ça. Je comprends pas exactement la question.
Parce que quand vous parliez de ce rapport à l'écriture, etc., on imagine l'espace est constitué par des repères qui sont déjà là, qui sont donnés, ou que l'écriture elle-même, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit chorégraphique, vient créer, quand vous écrivez, vous créez un espace. Là, à travers ce que disait Kitsu, de cette sensation étrange d'être finalement où les positions n'ont pas d'importance, que l'on soit couché de travers, etc., cette perte de repères, on a l'impression que que l'espace lui-même est comme dilué, évanoui.
Oui, je pense que c'est ce qui caractérise effectivement, c'est ce qu'on dit depuis le début, le peu que j'en ai ressenti, c'est effectivement, on arrive dans quelque chose qui est inédit avec cette perte de repères. Cette perte de repères, elle est tout de même relative, parce que quand on fait l'expérience, on est dans un avion. Je veux dire, on a des références visuelles, on a des références tactiles. Elles ne durent pas en plus, 22 secondes, c'est tout de même relativement éphémère. Donc pour moi, si vous voulez, on est à la limite entre le vrai ressenti et puis tout l'imaginaire aussi, dont on le crédite immédiatement après, entre les paraboles et après coup.
Mais justement, on dessine l'espace. Il faut dessiner à un certain moment l'espace avec son corps, moi avec mon corps. Après, on peut le dessiner avec autre chose, mais il faut le dessiner. Mais finalement, sur Terre aussi.
C'est peut-être la difficulté du jeu de mots, non ? de vouloir justement discuter sur la capitale de l'espace. En fait, c'est vrai que quand on propose justement ce milieu expérimenté, c'est bien une expérience et finalement c'est la façon dont ça va être peut-être transcrit, rendu compte, qui va dire les multiples espaces possibles. Mais c'est un peu d'ailleurs ça que souvent c'est cette approche qui nous intéresse tous, c'est que finalement d'artistes ou écrivains avec des sensibilités extrêmement différentes, avec des a priori peut-être différents sur ce qui va se passer, sur ce qu'on va rencontrer, sur qu'est-ce que c'est que ce milieu qui est finalement assez insaisissable, qui a une certaine étrangeté. C'est cette étrangeté qui je crois, peut-être qui va nous être ramenée à travers différemment. Mais je crois que là, il ne faut pas peut-être si on lui enlève cette capitale, finalement, cette étrangeté est peut-être perdue, et c'est quelque chose qui pourrait se détourne, d'un coup, ne s'imposerait plus.
Est-ce que lorsque les expériences sont terminées, lorsqu'elle s'achève. Est-ce que vous avez eu des échanges avec les chercheurs qui étaient embarqués dans le même vol que vous? Vous avez eu des échanges avant sur vous prévenir de ceci, de cela, etc. Est-ce qu'après, une fois retour sur Terre, est-ce qu'ils se sont révélés curieux de ce que vous, justement, avec votre sensibilité d'artiste, d'écrivain, vous aviez pu vivre ou ressentir ou...
Oh, écoutez, je pense que alors là, de manière pragmatique, ils avaient un peu autre chose à faire, puisqu'ils ont, ils sont tout de même très focalisés sur leurs expériences, qui tout de même, c'est pas de la terre, parce qu'ils ont 22 secondes, en fait, pour mener à terme des expériences, donc il y a toujours un truc qui foire dans leur truc, ils ont, c'est la première fois que je voyais des expérimentations scientifiques, c'est tout de même de là, c'est un peu du système D, ils ont tous bricolé leur truc, ils ont dû trouver des combines pour arriver à faire leur... Donc je pense que savoir si j'avais trouvé l'inspiration ou pas en apesanteur n'était pas vraiment leur souci numéro un, à mon avis. Mais bon, ceci dit, je pense que ça les a amusés sur le moment, oui.
Je pense qu'il y a un climat de convivialité quand même qui est vachement sympa lors des vols. Donc on a quand même plein de moyens de se rencontrer, de se parler. Donc c'est vrai que tout le monde est très préoccupé. Quand on a la chance d'avoir un vol, on essaye de pas rater son coup. Donc on est vraiment à fond. Mais ouais, je pense qu'on est tous un petit peu intéressés. Moi, j'ai toujours été voir un peu toutes les expériences. Bon, il y en a qui sont totalement incompréhensibles, mais il y en a d'autres qu'on comprend un peu et qui sont étonnantes.
Incompréhensible parce que
leur présentation aussi est complètement fermée, donc
visuellement,
ils ont beau expliquer, on voit un ordinateur, il y en a d'autres qui sont un peu plus visuels et du coup donc il y a des échanges. Je pense que nous danseurs, quand ils arrivent à nous voir, quand on s'enferme pas complètement, ça leur plaît vachement, donc du coup ça c'est sympa. Après, la question de la création derrière, ce qu'on va en faire et tout, ça reste quand même quelque chose. On est dans deux territoires un peu différents, donc je pense qu'il y a un respect mutuel, mais ça, voilà, c'est pas évident d'avoir la rencontre à ce niveau-là, quoi.
Non, pour rebondir sur ce que dit Kitsu, effectivement, l'expérience est même assez extraordinaire, donc tout le monde est assez, même les gens qui l'ont déjà fait plusieurs fois, enfin, il y a une ambiance un peu. Tout le monde est sur le coup, et puis après coup, comme il y a toujours des gens pour qui c'est la première fois, il y a une euphorie qui est palpable et une excitation qui est tout à fait palpable et sympathique, hein. Et les expériences, moi aussi, je les ai toutes filmées pratiquement, donc et j'ai pu avoir accès en fait aux vidéos, j'en ai même mis dans le webdoc, et c'est des trucs spectaculaires, quoi. Il y a par exemple une goutte d'éthanol en apesanteur. Bon, bah, qui n'a pas vu une goutte d'éthanol en apesanteur n'a rien vu, c'est vraiment
et ça sera dans le web documentaire,
tout à fait.
Oui. Moi, j'ai vu les pleurodèles, ça, c'est trop fort. C'est des, c'est des petits têtards, des sortes de têtards, hein, c'est ça? Des salamandres. Et ça, c'est incroyable. Et en apesante, quand ils sont en microgravité, d'un seul coup, ils se retrouvent tous en paquet au centre. Ils sont complètement paniqués, ils n'ont plus de repères, quoi. Et puis après, le 2G retombe. Donc après l'étude, je ne sais pas. Mais ça, c'était très, très intéressant à voir. Le comportement des animaux, c'est super.
Comment s'appellent ces animaux?
Ben les salamandres, moi j'appelais ça pleurodèles, mais ça...
Des pleurodèles, c'est des axolotes.
Axolotes.
Immortalisés par Cortázar.
C'est des sortes de têtards.
Ah non, c'est pas vraiment la même.
C'est déjà des petites bêtes, quoi. C'est des petites bêtes. Voilà, c'est ça.
Bonjour, Gwen Fléjou, je suis art-thérapeute. Et donc quand j'entends Kitsu parler de son expérience et notamment de la façon dont vous avez essayé de travailler au sol le même ressenti en fait dans l'eau, d'après ce que vous disiez. Je pensais aux différentes personnes qui suite à des AVC par exemple ont besoin de reconstruire l'image de leur corps et d'aimer à nouveau un corps qui a été abîmé. Et je me demandais si tout le travail au sol, parce que j'imagine mal de toute façon accompagner des personnes dans les vols, mais si tout ce travail en piscine ou dans l'eau pouvait être proposé à des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour aimer à nouveau leur corps, voilà.
Ben certainement. Après, c'est l'accès à la conscience de ça, c'est-à-dire cette fameuse chose dont je parlais, qui était de faire la connexion entre le centre et les extrémités, dans la circulation du mouvement à l'intérieur du corps, la conscience de la circulation, donc au niveau aussi des liquides, au niveau de tout ça. Certainement, mais pour éveiller cette conscience-là, c'est pas complètement évident. Donc, il suffit pas de le dire, quoi. Il faut vraiment des temps d'expérience. Je pense que l'eau qui est contenante peut être super. Après, moi, je suis pas médecin, donc je sais pas jusqu'à quel point, quand les terminaisons nerveuses ont été attaquées, comment on reconstruit. Mais ça ne peut être que des expériences super douces et contenantes qui peuvent permettre de redonner une enveloppe corporelle. On est dans les paradoxes, donc je pense qu'effectivement, l'eau, ça redonne une enveloppe corporelle. Après, la sensation des connexions à l'intérieur, faut déjà pouvoir les activer. Donc, je sais pas.
Oui, justement. Pas. Oui. Mais il y a une partie peut-être qui ne sera pas activable. Ce sentiment d'avoir perdu des limites et donc de pouvoir reconstruire des limites. Ça, avec ce qui effectivement marche, la partie saine de la personne.
C'est peut-être une expérience proche, je ne sais pas. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, toutes ces techniques-là d'écoute, de sensation, toute la question de la perception du corps et tout, ce n'est que profitable, ça. C'est très, très bien pour ce genre de.
Et est-ce que vous avez un espace, donc, qui pourrait être au moins un lieu d'études, en fait, pour pouvoir être.
Je pense qu'il y a plein d'études déjà qui sont faites. Non, il n'y a pas des études. Les neurophysiologues font pas un travail là-dessus. Ah oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Après, qu'on emmenait des gens malades, je pense que c'est pas évident. Hein. Enfin, c'est un peu perturbant comme expérience quand même. Donc, on rajoute peut-être pas de la perturbation à déjà de la perturbation. Je sais pas. Il faut aller plutôt dans le sens de quelque chose d'apaisant. Enfin, je dirais ça comme ça. Après,
ouais, c'est intéressant. D'accord. Et éventuellement, est-ce que l'on pourra continuer à en discuter? Vous avez un site web, peut-être?
Oui. Vous pouvez aller voir mon site, c'est kitsoudubois.com.
D'accord.
Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub ici.
Mais... Ouais, c'est pas de la publicité, c'est de la réclame, là. C'est pas... Le site est gratuit, de toute façon, ça n'est pas de la publicité. Publicité vient de, c'est rendre public. Donc, c'est pas. Voilà.
Oui, bonjour, je voulais poser une question. La Goutte, je travaille sur l'exploitation des ressources artistiques liées à l'astre lunaire. Et il y a une question dans ce sens que je voudrais vous poser, Iksu.
Kitsu,
excusez-moi, je suis un peu troublé.
Iksu aurait été basse, mais Piksu. Non, Kitsu, c'est beaucoup plus doux.
Non, simplement. Vous savez que sur la Lune, il y a 6 fois la pesanteur. Et quand on revient sur Terre, tous les auteurs décrivent, pour les auteurs de SF ou d'anticipation, décrivent ce retour comme une lourdeur. En particulier, par exemple, je pense à Kim Stanley Robinson, décrit ses retours sur la Terre après être resté en apesanteur très très longtemps comme... Alors, il décrit des personnages qui sont allongés pendant des mois, qui sont incapables de pouvoir lever le moindre bras, parce qu'évidemment, tout d'un coup, l'unité 6 se retrouve inversée quand on revient sur Terre. Donc, je voulais savoir... Et moi, c'est un truc qui m'obsède un petit peu. Je voudrais vraiment savoir si, tout d'un coup, quand on revient sur Terre, après avoir passé un certain nombre de temps dans l'espace, on se retrouve allongé sans pouvoir bouger ni rien du tout. C'est un truc, une autre sensation qui m'intéresse. Et donc, voilà, je voulais savoir si, dans le peu de temps que vous avez pu passer, lorsque vous êtes redescendu sur Terre, tout d'un coup, vous vous êtes senti beaucoup plus lourd. Tout d'un coup, vous êtes resté allongé plusieurs heures à ne pas pouvoir bouger un membre, enfin, je ne sais quoi.
Ben non, parce qu'on passe de 0G à 2G. Donc on vit l'expérience. Le 2G paraît très très lourd, le 0G très léger, mais on est déjà dans quelque chose de complètement différent. Par contre, les astronautes, eux, peuvent beaucoup dire ça. Il y a énormément de témoignages d'astronautes, mais là, Gérard pourra vous dire plus. Mais moi, non. Vincent, je sais pas.
Enfin, en fait, c'est que ça concerne essentiellement des astronautes qui seraient restés dans la station spatiale très longtemps, enfin 6 mois pour le plus long, 1 an. Donc, effectivement, il y a des modifications du corps, sachant qu'à bord, ils sont constamment toujours en train d'appliquer des mesures prophylactiques, c'est que pour justement ne pas perdre la masse musculaire, ne pas se dégasifier, enfin justement pour ne pas le retour soit pas trop problématique. problématique. Hein. Donc, il y a beaucoup de sport en permanence, enfin, non, chaque jour qui passe à bord de la station spatiale. Donc, qui fait que quand ils reviennent sur Terre, donc ils passent d'un état de micro-pesanteur à un état de pesanteur, ils arrivent quand même ils sont affaiblis. Quand on les voit, enfin, il y a beaucoup de films là-dessus, vous pouvez voir, où on voit quand ils sortent vraiment des capsules spatiales qui les ramènent sur Terre au bout de 6 mois, 1 an. Donc, voilà, ils sont dans un siège. Et après, ils vont se reposer un petit moment dans et aussi en sont en examen physiologique, mais ça reste, c'est pas très long comme période de réadaptation. Hein. De 2 jours après, ils sont dehors, enfin, quasiment. Enfin,
ça a vachement évolué, je pense, par rapport à
au début.
Au début, on les mettait
en quarantaine, surtout, c'était ça plutôt la différence. Enfin, on les gardait un bon moment pour les examiner, mais en fait, maintenant, les procédures de réadaptation, mais parce qu'aussi, on a beaucoup, justement, avec toutes les études qui sont faites en physiologie, on a beaucoup amélioré les différentes mesures à bord, hein, enfin les différentes contre-mesures plutôt, enfin les exercices, les types de matériel qu'on embarque, les pantalons de contention justement pour rétablir constamment la pression, l'intérieur sanguin à l'intérieur du corps. Enfin, il y a tout vraiment beaucoup de développement qui fait que le retour n'est plus du tout problématique.
Oui, bonjour, ça marche, ouais. Moi, j'ai 2 petites questions. En fait, je voulais savoir si dans votre vie quotidienne après. Vous avez eu des moments ou des activités ou des événements qui vous font une réminiscence de sensations liées à la non-gravité. Et symétriquement, j'aimerais savoir aussi si, quand vous étiez en non-gravité, ça vous a fait aussi des réminiscences par rapport à des moments de votre vie ou des mémoires affectives ou des images particulières.
Oui, moi, sur Terre, j'en ai pas mal. C'est un peu comme lui, Vincent, c'est dans le métro. Moi, c'est en haut d'une échelle, par exemple. Quand mon échelle est tombée, j'ai pensé m'envoler. Voilà, c'est une réaction très, très. Enfin, du coup, je suis tombée, évidemment. Mais je suis tombée très, très détendue et je ne me suis pas fait mal, puisque j'ai pensé m'envoler. Ça, c'est quelque chose qui est resté très fortement ancré en moi, parce que c'est vrai que ça a été une réaction. Donc ça, c'était bien. Et puis, parfois aussi dans les encombrements. Donc, c'est pas dans le métro. J'aimerais bien faire ça dans le métro. Mais dans les encombrements, moi, je passe au-dessus. C'est-à-dire, je me dis, il y a des obstacles devant. Et moi, je vois plus loin que l'obstacle. Donc, ce qui peut être dangereux. Parce que je regarde plus l'obstacle, mais je regarde plus loin. Et donc, je vois pas l'obstacle. Donc, ça m'arrive souvent. Je pense que c'est des réminiscences, par exemple. D'aller vraiment, vraiment plus loin et de dépasser la chose qu'il y a devant, quoi. Et puis aussi des rêves de vol, donc je sais pas si vous en faites, mais moi avant j'en faisais pas mal, et maintenant j'en fais. Je suis toujours dans une pièce depuis que j'ai fait les vols paraboliques. Et je suis en haut et je parle à mes amis, je leur dis mais venez monter avec moi, et ça c'est très très souvent, quoi. C'est très très souvent que je vais. Quand j'ai des soucis, je me retrouve en rêve dans l'avion, en fait, en haut du plafond, à demander à tout le monde de venir avec moi en haut. Voilà, ça c'est pour l'anecdote, mais je pense que c'est très finalement très présent, ouais. Très présent. Mais après, c'est de l'imaginaire réel, mais voilà, pour moi. Et la deuxième question, c'était quoi ?
C'est l'inverse. Parce que
ah oui. Pendant le vol, je dois dire que je suis extrêmement concentrée sur mes sensations à l'instant présent. Et j'ai pas le sentiment que j'arrive à faire venir l'instant d'avant ou l'instant d'après, quoi. Je suis vraiment dans l'instant présent. Et c'est ça qui est d'ailleurs super agréable. Tellement il y a une urgence d'être dans l'instant présent. C'est mon impression.
Vincent, pour vous ?
Je ne peux que redire ce que j'avais dit au début. Oui, effectivement, j'ai des réminiscences fugaces, mais non, j'essaye de me réapproprier d'une autre manière l'expérience. Et sinon, sur le moment, non, l'expérience n'a pas été suffisamment longue pour que ça déclenche autre chose que une investigation sur le moment de l'expérience elle-même.
Un désir de recommencer, éventuellement, de renouveler cette expérience?
Oh, écoutez, pas spécialement. Si on me le proposait, par exemple, effectivement, si le CNES me disait, voilà, t'as la carte blanche, tu vas faire 10 fois 10 vols, et dans ce cas-là, j'écrirai un livre, et effectivement, sur la pesanteur. Sinon, non, je l'ai fait une fois, c'est bon. Maintenant, je préférerais, si on me proposait d'aller dans l'ISS, par exemple, oui, j'irais. Mais le vol parabolique, c'est bon, quoi.
encore une question.
Bonsoir. Bah, en fait, je voulais savoir, parce que je sais pas si j'ai le droit, mais c'est vachement tentant de demander comment on fait pour se, enfin, pour se retrouver dans ce processus-là. Je parle pas, parce que je sais très bien qu'il y a une, au début de tout ça, il doit y avoir une vieille envie, une envie profonde de faire l'expérience. Mais je me dis que de là à franchir le pas, j'aimerais savoir un peu quel est le processus qui s'est déclenché dans votre tête, ou alors si c'est quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça, par hasard, par du fait des rencontres, de votre entourage. Et aussi, je voulais savoir, en deuxième lieu, s'il y avait une... Parce que je vois que parmi vous, il y a deux artistes, et je suppose que ça doit être une expérience qui les a marqués de façon assez profonde. Et je me demandais, en fait, s'ils avaient eu l'envie de, parce que moi, quand je les entendais parler, je me disais juste qu'il y avait une chose qui aurait été, enfin, la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était de recréer ça sur Terre, quoi, enfin, pas dans un avion. Et je me demandais s'il y avait des moyens de créer cette atmosphère qui existait, ou, voilà.
Je crois que d'une certaine manière, et à la première question, je crois que et Vincent Ravalec et Kitsou Dubois ont répondu un petit peu au début sur la manière dont ça s'est passé, d'ailleurs très différemment pour l'un et pour l'autre. Et voilà, je ne vais pas répondre à leur place, mais sur la deuxième question, je crois que plus particulièrement le travail de Kitsou, tout ce qu'elle a raconté, vise précisément à, entre autres, à essayer, arriver à transposer sur Terre, en tout cas dans une activité de création ici. Je dis sur Terre, mais je sais que la prochaine création de Kitsou, c'est dans les avions à nouveau pour Marseille-Provence 2013, un spectacle aérien avec la Patrouille de France.
Avec en fait dans deux avions de l'équipe de Voltige. Donc un duo d'avions voltigeurs, mais là c'est des avions, quoi, avec des pilotes dedans.
Mais sinon, dans son travail de création, donc là, je vous incite simplement pour en savoir un petit peu plus, peut-être à aller effectivement sur le site internet et de voir un peu. Il y a des vidéos, en plus, il y a des sur les...
Je vous remercie, vous savez que c'était bien de le préciser, que si vous avez...
Non, 6 000 euros.
6 000 euros, vous pouvez faire l'expérience.
Ah oui, ouais. En France aussi, parce que je savais qu'aux États-Unis,
on pouvait...
Ah
oui,
6 000 euros.
Il y a des vols qui sont commercialisés maintenant. Mais que, naturellement, ça ne rentre pas du tout dans le cadre de ce que nous faisons ici. Enfin, ni pour les scientifiques, ni pour les artistes et les écrivains.
Mais c'est quand même le CNES qui...
Non, pas du tout.
Ah non, pas du tout.
Ce n'est pas le CNES. C'est Novespace, une société qui commercialise le vol.
D'accord. Ah oui. Mais avec le même avion.
Le même avion.
D'accord.
Donc, c'est le même avion qui produit la même chose. C'est 22 secondes.
Qu'il soit gros ou petit, c'est toujours 22 secondes.
22 secondes, c'est le temps de la parabole. Il y a quand même 30 paraboles par vol.
Vous avez 30 fois 22 secondes.
Ça fait cher de la minute, mais enfin, c'est...
Voilà. Mais pour compléter ce que disait Kitsou, c'est ça. Enfin, si on prend pas littéralement la question comment on peut retrouver l'espace sur, enfin, ce qui se passe dans l'avion sur Terre, c'est effectivement à travers la création. C'est justement tout le projet, à travers la création, à travers les webdocs, à travers les textes, à travers tout ce qui peut être ensemencé par ce passage dans l'espace. Il faut avoir un ascenseur, aller dans une tour et couper les câbles. Un ascenseur en chute libre fonctionne assez bien. Dans
ce... Oui, mais ça ne dure pas longtemps non plus, et c'est peut-être plus risqué encore que les vols du CNES.
Et autant on sait remettre les gaz dans un avion, autant on peut
dans
avoir des problèmes.
C'est plus compliqué.
Remettre les gaz dans un ascenseur.
Donc, fortement déconseillé. Voilà. Bon, je vous propose, avant qu'il y ait... Non, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on en reste là sur cette deuxième rencontre. La troisième à venir le 27 mai à 19h, ici même. sera une autre approche toujours de cette même question de l'espace mis en œuvre. Alors la troisième rencontre portera plus particulièrement sur la manière dont des archives, des documents, des témoignages liés, alors là aussi beaucoup aux représentations finalement de l'espace, sont réactivés, mis en œuvre par des artistes. Et on sera en compagnie du dramaturge Philippe Braz, de Khalil Jorège et Johanna Hadji Thomas. Donc je vous incite vivement, pour vous préparer d'ailleurs à cette prochaine rencontre, à aller voir, je pense qu'il est encore en salle, sur quelques écrans à Paris, le film libanais Rocket Society qui vient de sortir et qui est voilà, qui est magnifique. Et Sonia Chiambretto, auteure, écrivaine. Voilà. Donc cette troisième et dernière rencontre le 27 mai ici même. Voilà. Merci et bonne soirée.
Merci.